Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 5 au verset 17? On va toujours commencer par notre verset de référence. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la grâce surabondante?
La grâce surabondante.
Ah. Qui reçoit ce message-là? Ce message est vraiment profond. Il est vraiment profond. C'est tellement vaste. Il y a tellement de choses à dire. Parfois, j'ai envie de prêcher 4 messages en même temps. Il y a tellement de choses à dire. Même là, je suis en train de préparer d'autres choses. Je me dis, ah ça, il faut d'abord que ça touche d'abord ma vie d'abord en premier parce que c'est trop bien. Romains 5, verset 17. Hein. On y est tous. Si tu es avec moi, dis amen. Si tu n'y es pas, dis attends. Amen. Attends, depuis là, tu n'as pas trouvé. Tu devrais savoir où c'est, Romains 5, 17. Alors, j'y vais. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La version parole vivante dit, en effet, si par la faute d'un seul, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, dis avec moi, dès ici-bas.
Dès ici-bas.
La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Amen. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur ce point. Les 5 vertus de la grâce surabondante. Est-ce que tu peux dire avec moi les 5 vertus de la grâce surabondante? Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai retenu 5 que je vais partager aujourd'hui. Par rapport au temps, je vais essayer de tous les dire. La semaine dernière, on s'est attardé sur un point qui était de comprendre la différence entre la loi et la grâce. Dis avec moi la loi et la grâce.
La loi et la grâce.
S'il y a un sujet dans l'Église qui n'est pas compris par beaucoup de chrétiens, c'est le sujet de la loi et de la grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église, qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui se comportent comme s'ils devaient à Dieu. Comme s'ils devaient absolument faire des choses pour plaire à Dieu. Ce n'est pas vraiment de leur faute, particulièrement quand ce sont des gens, quand on a baigné dans la religion. Quand tu as baigné dans la religion, que ce soit toutes les religions qu'on connaît, là, les plus connues, d'accord? Quand on a baigné dans ces religions et qu'on arrive à Christ, on vient avec un bagage. Et ce bagage nous amène le plus souvent à toujours vouloir faire quelque chose comme si on devait prouver quelque chose à Dieu ou à nous-mêmes. Alors que Dieu ne nous a rien demandé. Et quand tu demandes aux gens de t'expliquer qu'est-ce qu'ils comprennent au travers de la grâce, ce n'est pas évident à expliquer. Tout le monde te dit par la grâce de Dieu par-ci, par la grâce de Dieu par-là, mais les gens ne comprennent pas trop c'est quoi la grâce. Pourquoi? Parce que les gens n'étudient pas la parole. Les gens ne méditent pas la parole. Les gens sont enfermés dans des églises où on leur donne des enseignements qui ne sont pas de mauvais enseignements, d'accord? Mais pour beaucoup de gens, ils ne sont pas bien enseignés. Les gens fréquentent les églises et ils ne sont pas bien enseignés. Les choses élémentaires de la vie chrétienne, telles que la prière, la vie de jeûne, la méditation de la parole, la vie d'église, des choses élémentaires comme celle-là, tu te rends compte que les gens n'ont pas ça. Et c'est ce qui fait que les gens ont du mal, quand ils arrivent à l'église, à s'asseoir dans l'église ou à porter du fruit dans l'église. Porter du fruit, ça veut dire grandir. Et quand quelqu'un ne grandit pas, c'est que soit il a le kwashoko, soit il a une malformation. Tu sais, j'ai découvert quelque chose au travers de la parole de Dieu, quelque chose qui m'a bouleversé. C'est que quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu comprends les lois de Dieu, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu n'as plus besoin de prier. Je t'assure. Parfois, on aime prier pour tout et pour rien. Alors qu'il y a beaucoup de choses, je t'assure, Dieu n'a même pas besoin que tu pries pour ça parce que c'est déjà accompli, c'est en toi. Tu as juste à l'accepter. Je t'assure. Est-ce qu'on prie pour avoir la grâce de Dieu? On ne prie pas pour avoir la grâce de Dieu. Est-ce qu'on prie pour avoir la faveur de Dieu? On ne prie pas pour ça. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Dis avec moi, Jésus a tout accompli à la croix. Si Jésus a tout accompli à la croix, alors pourquoi on prie pour tout et pour rien? Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne portent pas de fruits, qui ne grandissent pas spirituellement. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'église, ils viennent à l'église tout le temps, mais ils ne grandissent pas spirituellement. Ils n'arrivent pas à passer à un autre cap dans leur vie spirituelle. Parce que spirituellement, en termes de connaissances, ils sont limités. Tu sais, c'est comme quand tu prends un seau et puis tu mets de l'eau dedans. Et puis quand le seau arrive à ras-bord, au bout là, tu ne peux plus mettre. C'est-à-dire, il faut avoir un autre vase. Il faut prendre un autre seau ou bien il faut prendre un seau plus grand. Vous voyez ce que je veux dire, non? Eh bien, c'est pareil avec la révélation de Dieu. Il y a des révélations de Dieu, il y a des révélations de Christ que tu ne pourras jamais recevoir tant que tu ne grandis pas spirituellement. Tant que tu n'es pas suffisamment large, il y a des choses que Dieu ne pourra pas te révéler. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que je comprends que je ne comprenais pas avant. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. Il y a des choses que j'arrive à expliquer devant vous, mais avant, je ne pouvais pas m'aventurer à expliquer. Il y a même des sujets qu'on a abordés durant l'année. Et quand j'ai reçu le sujet, quand le Seigneur me dit « médite ça », et puis on va enseigner ça à l'église, j'ai dit « ah, mais ça, je vais attraper ça comment ?» Parce que tu sais, il y a des choses, tu te dis « mais comment je vais aller chercher ça dans la Bible ? Quel verset je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais dire ?» etc. Et le Seigneur dit « va étudier ». Et puis quand tu étudies la parole, tu te rends compte que les choses viennent, tu vas, tu commences à écrire, tu commences à lire, tu dis, oh, wow, c'est génial, etc. etc. Parce que tu es large dans la tête, il y a suffisamment de place. Tu vois? Mais il y en a, quand ils sont là assis à l'église avec nous, le pasteur peut prêcher, peut dire des choses. Il est là, il te regarde. Mais ça ne rentre pas en fait. Ça a du mal à rentrer. Il est là, il te regarde, il fait. Il y en a même pendant que tu prêches, il transpire. Parce qu'il fait des efforts pour que ça rentre. Mais ça ne rentre pas. Parce que la tête n'est pas suffisamment large. L'esprit n'est pas suffisamment large. Il y a des révélations, je t'assure, si Dieu te les donne, il va te tuer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire. Moi, par exemple, quand je reçois des gens en entretien, je les écoute, on parle. Et puis pendant qu'on est en train de parler, je discerne des choses dans leur vie. Je discerne des choses dans ce qu'ils disent. Mais dans mon esprit, le Seigneur me dit, ne lui dis pas. Parce que si tu le dis, tu peux la faire fuir. Imagine que tu reçois une dame et puis tu dis, elle te parle, elle dit, je ne comprends pas, il m'arrive ça, etc. Elle te raconte un peu ce qui se passe chez elle, comment la chose réagit, comment elle réagit à certaines choses, etc. Et puis dans ton esprit, tu discernes qu'elle est possédée. Mais tu sens dans ton esprit que si tu lui dis qu'elle est possédée d'un esprit là, le fait que ça vienne du pasteur, tu vas la faire fuir, tu vas la faire paniquer. Peut-être que c'est l'esprit qui va te répondre tout de suite si tu dis ça. Donc, quel est mon propos? Mon propos, c'est qu'il y a un certain nombre de révélations, un certain nombre de connaissances, dis moi la connaissance, qu'il nous faut acquérir. La clé de la percée avec le Seigneur, c'est la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Le Seigneur a dit dans le livre de Amos que mon peuple se meurt faute de connaissance à cause de son ignorance. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux percer dans la vie, si tu veux opérer à des niveaux élevés dans la vie, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans la vie, il faut que tu aies la connaissance. La différence entre le riche et le pauvre, c'est la connaissance. C'est que le riche connaît des choses que le pauvre ne connaît pas. Pourquoi il y en a à qui on paye 100 000 francs par mois de salaire et il y en a un autre à qui on donne 3 millions? Ce n'est pas parce qu'il est dans les systèmes. Hein. C'est parce qu'il a des connaissances que tu n'as pas. Écris ça. Si tu veux gagner plus d'argent dans ta vie, il va falloir que tu apprennes à résoudre des problèmes plus importants. Les gens qui résolvent des problèmes complexes dans la société, ce sont les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Tu ne peux pas prier en langue tous les jours, méditer ta parole tous les jours, et puis tu ne connais rien au niveau professionnel, et puis tu t'attends à ce que le ciel s'ouvre et qu'on te donne tout. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela que Salomon donne la révélation. Salomon dit, acquiert la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Proverbe 4. Mon fils, acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence et l'instruction. Elle mettra sur ta tête une couronne, autour de ton cou un diadème. Elle fera ta gloire, la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est avoir de la connaissance d'un certain nombre de choses, les avoir compris et être devenu intelligent dedans, et puis savoir les mettre en pratique, les maîtriser, et en échange, avoir la gloire. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut être intelligent. Les jeunes disent avec moi, il faut être intelligent. Et vous êtes intelligent. Si aujourd'hui, moi, dans mes activités, mon domaine d'expertise, c'est le digital, Internet. On est là, assis, toi et moi. Et puis je commence à t'expliquer les choses de l'Internet. Alors tu sais, HTML, PHP, JavaScript, d'accord, tu sais, ergonomie d'un site Internet, il faut faire comme ci, comme ça. Tu vas me regarder, je dis, mais tu racontes quoi? Parce que ton intelligence, ton cerveau, ton esprit n'est pas suffisamment large pour entendre ces choses-là. Donc, pour pouvoir opérer à une certaine dimension, il faut avoir la connaissance. Et quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle du surnaturel, quand on parle de Dieu, il y a des informations sur le Seigneur, il y a des révélations sur ta propre vie que Dieu ne pourra jamais te donner tant que tu ne seras pas suffisamment large et apte à les recevoir. Amen. C'est très important. Et quand on parle de la grâce est un sujet extrêmement important dans la Bible. C'est le sujet le plus important. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est le message du royaume. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Tiens, allez et faites de toutes les nations des disciples et annoncez-leur la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume? C'est le message de la grâce. C'est qu'un jour, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, au lieu de nous condamner à cause de notre péché, nous a accordé sa grâce et nous a tout donné. Au travers de son Fils unique, Jésus-Christ, qui aujourd'hui n'est plus Fils unique, mais est simplement l'aîné de la famille. Tout ce à quoi on peut penser, quel que soit le domaine, spirituel, finance, fécondité, prospérité, santé, n'importe quoi, tout est en Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Et Dieu, au lieu de nous condamner, la Bible dit dans Éphésiens 3 que Dieu a pris tout ce que les cieux contenaient. Paul appelle ça les bénédictions. Et Dieu a déversé ça sur lui. Voici ce que le grec nous dit au travers de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Donc le jour où tu découvres ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est entrer dans le royaume. Tu dis, oh, donc je souffre comme ça là, dans le monde là, comme ça, mais en fait, j'ai tout. Oui, tu as tout. Tu as juste à le recevoir. Et la semaine dernière, on s'est attardé sur la loi. Pourquoi? J'ai pris mon temps. Parce que la loi est quelque chose dans lequel beaucoup de gens sont maintenus, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Surtout les gens qui sont dans la religion ou qui se comportent comme des religieux. Parce que, détrompez-vous, hein, y a des gens qui sont dans des églises comme la nôtre qui se comportent comme de vrais religieux. Hein, qui se comportent comme de vrais religieux. Observez les comportements des gens et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comportements religieux. Qu'est-ce qu'un comportement religieux? C'est quelqu'un qui est attaché à des dogmes, à des pratiques, à des manières de faire, et qui pense que parce qu'il fait ça, alors il va obtenir ça de Dieu. Et c'est pour ça que les gens sont frustrés. Parce que les gens passent leur temps à faire des choses. Voilà, je vais prier. Voilà, je vais jeûner. Voilà, je vais aller à l'église. Voilà, parce que je vais à l'église, alors ça veut dire que je vais être plus heureux dans la vie. Parce que je vais à l'église et que je suis quelqu'un qui prie, qui me purifie, qui me consacre, alors je vais réussir et puis je vais avoir beaucoup d'argent. Vous n'avez pas remarqué que le lieu où il y a les gens les plus pauvres, c'est dans l'église? Mais oui, oh, ça vous fait sourire. S'il y a bien un endroit en Afrique où il y a une forte concentration de gens qui manquent de moyens, c'est l'église. Hein? C'est pour ça que les gens sont fatigués des églises. Surtout dans le pays au Gabon. Là. Nous, la maison du bâtisseur, on est venu changer ça au nom de Jésus. On va tous vous amener à l'église. Écoutez bien la radio, on va tous vous amener à l'église. Donc, il faut refaire la mentalité des gens pour leur faire comprendre que cette affaire de Jésus-là, ce n'est pas une affaire de religion, c'est la vie. Mais ce n'est pas parce que tu connais Jésus, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, que ça veut dire que tu seras plus heureux dans la vie. La clé du bonheur et de l'épanouissement personnel, c'est la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui libère. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Comment quelqu'un peut donner sa vie à Jésus? Il vient à l'église tous les jours. Et un jour, tu le reçois en entretien et il te dit, pasteur, je suis homosexuel. Oh! Depuis longtemps, je n'arrive pas à me défaire de ça. Comment il fait? Il est au contact de la parole de Dieu tous les jours. Pasteur, je suis à l'église depuis des années, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai une addiction, je n'arrive pas à m'empêcher de regarder les films porno. Comment il fait? Dès que tout le monde va dormir, lui le salon, il n'arrive pas à décrocher. Il n'arrive pas. Addiction. Et il y a des gens au bout d'un moment qui te disent, oh, pasteur, pourtant j'essaie de ranger ma vie, j'essaie vraiment, je n'arrive pas à me défaire de ces choses-là. Et c'est ça que Paul nous révèle dans le livre de Romains au chapitre 7. C'est qu'en nous, il y a une loi que l'on appelle la loi du péché. Dis avec moi la loi du péché. Et cette loi-là nous maintient dans l'esclavage à ces choses mondaines-là. Et Paul vient nous dire dans le livre de Romains que si tu veux être délivré de ça, il va falloir annuler cette loi-là par une autre loi. Romains chapitre 8 au verset 2, la loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce que la loi de l'esprit de vie? C'est tout simplement le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre dans ta vie par Jésus-Christ, quand il entre dans ta vie, il ne faut plus résister. Il faut laisser Dieu prendre la place. Et c'est là que ça, le combat commence. Les gens vivent des luttes, des luttes intérieures, des luttes dans leur cœur, des luttes dans leur tête. Ils arrivent parce qu'ils résistent. C'est-à-dire même quand on dit « prends la parole et puis prie », il est là, la Bible dit dans Galates 5, la chair n'est pas amie avec Dieu. Et puis on te dit « prie », mais la chair dit « ne prie pas, bon, j'arrête de prier ». Et puis tu t'en vas. Non, il faut combattre. Amen. Donc, je ne vais pas trop revenir trop longtemps sur la loi, parce qu'on a dit beaucoup de choses là-dessus. Mais on a terminé par un point qui était que Satan a été désarmé. D'accord? Et l'arme la plus puissante que Satan possède, ou que tu puisses mettre à sa disposition, c'est la loi. Comment est-ce qu'on met la loi entre les mains du diable? Et en fait-on une arme pour qu'il domine dans nos vies? Et bien, c'est très simple. C'est quand, au lieu de t'en remettre totalement à la grâce de Jésus-Christ, au lieu de t'en remettre totalement au Seigneur, quelle que soit la difficulté que tu rencontres, tu te dis que c'est parce que je vais faire des choses, parce que je vais faire ceci, parce que je vais faire cela, que je m'attends à ce que Dieu me sorte de là. Mais quand tu fais ça, Satan est toujours là, venu te souffloter dans l'oreille. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es qu'un pécheur. Tu n'es qu'un pauvre petit pécheur, comme dit Maman du Carambiri. Tu n'es qu'un pécheur. Regarde-toi, regarde ta vie. Pauvre type, va, imbécile. Tu connais rien. Tu regardes, tu n'as même pas été à l'école. Tu penses que tu vas apprendre quand le pasteur a parlé de connaissances, d'apprendre des choses, les vases qui sont larges. Ton vase est tellement petit, regarde-moi celui-là. Tu ne connais rien. On parle d'entrepreneuriat, tu ne comprends rien. Tu vas aller vendre des gâteaux à la cité. Tu ne connais rien. Il vient, il te souffle des choses comme ça dans l'oreille. Tu ne réussiras pas dans la vie. Etc, etc. Et tu crois. Et quand tu crois, c'est fini, il te maintient. Gloire à Dieu. On avance. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce point-là. Je suis déjà dans le message. Sauf que j'ai envie de dire des choses. Un croyant en Jésus-Christ est quelqu'un qui n'est pas soumis à la loi. Dis avec moi, je ne suis pas soumis à la loi. La loi a été vaincue et annulée par Jésus-Christ. Quand la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 ou 3 que Jésus-Christ a désarmé Satan et il l'a traîné dans son char, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a expliqué la semaine dernière, Jésus-Christ a pris la loi. Et il a exposé la loi à tout l'univers, au ciel, sur la terre et sous la terre. Et cette loi-là, il a dit, désormais, regardez cette loi. Il l'a déchirée et il a dit, cette loi-là, écrite-là, vous n'avez plus besoin d'y obéir parce que la loi-là, c'est moi maintenant. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Donc, maintenant, plus besoin de faire un quelconque effort pour plaire à Dieu. Celui juste qui croit en moi, il plaît à Dieu. Waouh! Tu as juste à croire, c'est tout. Et quand tu veux sortir de ton addiction, de ta dépendance, Jésus-Christ dit, ne force pas, fais-moi confiance. Crois en moi, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Fais-moi confiance et remets-toi au Seigneur. Mais s'il continue de lutter avec le péché en essayant de se faire justice lui-même devant la loi, le diable continuera de dominer sur lui. Amen. Donc, c'est seulement quand tu reçois la grâce de Jésus dans ta vie, au travers de ce que j'ai appelé la semaine dernière son œuvre rédemptrice. Que tu seras purifié par son sang et que tu deviendras juste devant Dieu. Amen. Le message que je donne est très important parce que c'est le message de la Bible. C'est ce message-là qui est incompris par la plupart des gens, qui font que les gens sont coincés et les gens n'évoluent pas avec le Seigneur. Personne ne peut se justifier lui-même par ses propres efforts. On devient juste uniquement en croyant en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis, qui sont en train de répandre un évangile bizarre qui dit que Jésus-Christ n'est pas le seul moyen d'être justifié devant Dieu. Il y a d'autres moyens d'arriver à Dieu. Il y a des gens qui sont en train de dire ça maintenant. Que Dieu aime tout le monde, il fait grâce à tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde. Donc, dans le monde, c'est tout le monde qui est dans le monde. Donc, tout le monde a la grâce. Donc, toi là, tu te constates, et celui qui est à côté de toi qui est homosexuel, vous avez la grâce. Oh! Ça, c'est que l'évangile, ça. Donc, toute la consécration que je fais là, c'est pourquoi alors? Si lui vit dans la débauche, on va se retrouver au même niveau au ciel. Donc, autant que je vive aussi dans la débauche. Personne ne peut se justifier par lui-même. Pour régner dans la vie, le Seigneur nous a donné au travers de ce verset, les deux secrets. Recevoir, dis avec moi recevoir. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Dis avec moi le don de la justice. Ah, le don de la justice. On va s'intéresser à lui aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le don de la justice? Eh bien, le don de la justice, c'est donner. Dieu t'a donné. C'est-à-dire, la justice, c'est la capacité à être en phase avec la loi de Dieu, avec la parole de Dieu. Et celui qui veut plaire à Dieu doit s'assurer d'être à 100% en phase avec sa loi. Le problème maintenant, c'est que la loi de Dieu est tellement complexe que c'est compliqué d'être à 100% en phase avec sa loi. Et il n'y a qu'une seule personne qui a pu faire cela, c'est Jésus-Christ. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ, automatiquement, Dieu lui fait justice. Et c'est pour ça qu'il dit dans le livre de Colossiens que notre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, il ne te voit plus, il voit Jésus-Christ qui a accompli toute la loi. C'est pour cela que quel que soit ton péché, quelle que soit ta faute, quelle que soit ton addiction, quand tu t'identifies à Jésus-Christ devant Dieu et tu dis « Seigneur, en Jésus-Christ, je m'abandonne entre tes mains », Dieu te regarde et Dieu dit « Approuvé ». Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu deviens juste devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu deviens juste devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'efforts, que tu jeûnes 40 jours par tous les 3 mois, 40 jours tous les 3 mois, que tu seras juste devant Dieu. Non, la justice ne s'obtient exclusivement qu'en Jésus-Christ. Amen. Matthieu 6, 31, Jésus-Christ nous dit chercher. Non, regardez ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens. » Dis avec moi les païens. Voilà, tu n'es pas païen. « Qui les recherche ? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Que veut dire chercher premièrement la justice de Dieu ? Eh bien, ça veut dire chercher toujours à être en phase avec sa parole. Et celui qui est en phase totalement avec la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, quand on dit chercher premièrement la justice de Dieu, c'est chercher premièrement et toujours à être d'accord avec Jésus. Amen. Pourquoi Jésus-Christ nous dit ça? Eh bien, parce que le monde dans lequel nous vivons là, la plupart des gens veulent se faire justice eux-mêmes. Les gens, quand tu regardes leur manière de vivre, même quand ils disent qu'ils sont en crise pour certains, ils font des choses comme si on dirait qu'ils veulent prouver quelque chose. À Dieu ou à eux-mêmes, je ne sais pas. Chercher par ses propres moyens, comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais me vêtir, comment je vais arriver à sortir de cette addiction, Comment je vais guérir de cette maladie? On t'annonce, tu vas faire un examen médical normal. Et puis on vient te dire, voilà, vous êtes malade, qu'est-ce que j'ai? Vous avez le cancer. Oh, tu commences à paniquer. C'est quel traitement qu'il faut prendre? D'accord. C'est quel médicament qu'il faut prendre? Le Seigneur dit, mais pourquoi tu paniques? On t'a donné un diagnostic, mais est-ce que c'est lui qui te donne aussi le pronostic? Lui, il donne le diagnostic. Moi, je suis celui qui donne les pronostics. Même si on t'a diagnostiqué malade, même si on t'a diagnostiqué incapable, le pronostic de Dieu, c'est plus que vainqueur. Voici le pronostic de Dieu. 2 Corinthiens, il nous fait toujours triompher en Christ. Ah. Dieu est ta justice. Dieu est ton bouclier. Il t'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Donc, si on vient de diagnostiquer quelque chose, tu fais, monsieur, excusez-moi, mais c'est écrit sur mon front destiné à réussir et à rendre gloire à Dieu sur la terre. Je suis destiné à vivre ça par sa grâce. Donc, face à une difficulté, face à une addiction, face à un péché, face à une dépendance, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas quoi que ce soit qui va changer ça. Ce qui te délivrera de ça, avant toute chose, avant d'aller prendre ton médicament, c'est d'abord de croire que la grâce de Dieu te guérit et te sort de là. Comment quelqu'un, par exemple, qui est accro à la cocaïne, il y en a ici, quelqu'un qui est accro à la cocaïne depuis des années, tu l'emmènes maintenant à l'église. Et puis tu lui parles de, oui, viens à l'église, viens à l'église. Il dit, mais gars, tu penses parce que je viens à l'église que la femme me sauvait de la cocaïne? Le gars, il est dépendant maintenant. Il est dépendant et il y a énormément de jeunes à Libreville qui sont dedans, dans la drogue. Comment tu fais pour les sortir de là? Tu penses que c'est en les emmenant à l'église? Oui, il faut qu'ils viennent à l'église. Mais ce n'est pas en leur disant qu'il faut venir à l'église, en venant à l'église qu'ils vont être sauvés de ça. Il faut commencer à leur dire, ça ne sert à rien tout ça. Crois juste que Dieu va te sortir de là. Crois juste. Et remets-t'en à Dieu seul. Pas à toi-même, pas aux médicaments que tu prendras, pas aux traitements. Même si tu continueras à prendre les traitements, continue à prendre les traitements. Même si tu dois suivre une cure, suis une cure, etc. Mais la personne qui va te sortir de là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'il a fait. Le pasteur Sende Adelaja en Ukraine, il a commencé son église avec des drogués et tous les jours il leur disait, mais remettez votre vie en Jésus-Christ, entre les mains de Jésus-Christ. Vous imaginez une église, il n'y a que des drogués. Tu es là, tu prêches et puis tu vois des mecs qui sont que des drogués. Tommy Barnett aux États-Unis, un pasteur qui a une église de près de 15 000 personnes, vous savez comment il a commencé son église? Nous aussi on va faire ça. Il a loué des bus et puis il partait dans les ghettos de prostituées. Et puis il allait voir les prostituées. Je vous emmène à l'église. Les prostituées disaient, où? À l'église. Ah non, nous là, on ne peut pas être sauvés, mon frère. Nous, on est gaspillés. Le gars dit, non, il n'y a pas de problème. Non, mais nous, on n'est pas dans votre religion. Là. Non, madame, on vous met dans notre bus, on vous emmène à l'église, on vous fait un soin. Et quand le culte est fini, on vous ramène là où on vous a pris. Et elle dit, ah, vous faites ça, vous êtes chrétien? Oui. Vous me ramenez dans mon truc. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, le matin maintenant, leur bus était rempli d'autocars que de prostituées. Tu vois, quand elles étaient, elles font le congo. Ah, ouais, c'est ma quitte, tout ça. On va à l'église. Hein. Tu sais, il y a peut-être le beau mec qui va changer ma vie. Hein. Tout ça. Peut-être un gars qui va me sortir de là. Tout ça. On vient, on les dépose à l'église. Selon le pasteur, les regarde. Ok. Il est là, il les regarde. Ils sont tous là. Ok, prêche la parole maintenant. Il prêche la parole, louange, Dieu, combat pour nous tous, tout ça. Quand le culte est fini, on vous ramène. Et quand on les ramène, dès qu'on les ramène, tu vois une voiture qui vient se garer. Jolie fille, tu montes, s'il te plaît, on va faire nos choses. Et repart dans ces trucs. Au bout d'un moment, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. À la fin du culte, quand on dit, on vous ramène. Non. Là. Ce que j'entends de plusieurs semaines là, je ne peux plus retourner là-bas. Je suis dans l'esclavage là. Et c'est comme ça que son église se remplit de gens soi-disant bizarres, mais en fait qui étaient des brebis du Seigneur sans moins égarés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu es prêt à aller avec moi dans les rues de Libreville, on va aller ramasser les fous qui sont tout nus là, par terre. Il y en a un là du côté du 9 étage. Chaque fois que je le vois, je le regarde, j'ai dit, ah Seigneur, il est là, comment on va le récupérer? Il est là. Il est là tout nu. Il vous regarde. Et tu vois les gens, ah vraiment, oh, les gens passent. Et moi, je passe, je le regarde, je suis là, je dis, ah Dieu, ça c'est quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Et puis je te prends, Mallory, viens. Et je dis, Mallory, va lui parler. Non, pasteur, c'est toi le pasteur, va lui parler, toi. Va lui parler. Et commence à lui parler de Jésus. Oh, mais là, s'il me frappe. Parce qu'on dit qu'il y a des fous, parfois, ils peuvent réagir violemment. Non, mais bon, tu sais pas. Oui, imagine. Ces gens, ils font tous le bord de mer, là, les 100 mètres, là, ils sont là, ils marchent tout nus, ils parlent vite, tout ça. Et puis vous êtes tous là assis. Et puis il y en a un qui rentre là, il s'assoit là. Tout nu. Comment tu réagis? Il vient, il s'assoit à côté de toi. Comment tu fais? Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y en a qui disent change de place. Non, faut pas changer de place. Faut que ton onction se déploie là. Faut le convertir. Un jour, je sortais d'une réunion de prière. On était en jeûne de prière. C'était à Paris. Et puis, il était à peu près 21h. Je rentrais de la prière et j'attendais mon métro. J'étais là, j'attendais mon métro. Et le soir, les métros viennent rarement. Donc, j'attends. Et là, il y a une femme noire qui était un peu bizarre. Et puis, elle marchait sur le quai. Elle était folle. Et puis, elle venait devant les gens. Les gens fuyaient, etc. Elle venait. Et puis quelqu'un disait, on va appeler la police, ça va pas, tout ça. Tu sais, les blancs, tout de suite, on va appeler la police. Moi, je suis resté là assis. Et en fait, je n'avais pas su parce que j'avais ma musique. Et puis elle vient et s'assoit à côté de moi. C'est la vérité ce que je dis là. Elle s'assoit à côté de moi. Et quand elle s'assoit à côté de moi, elle me regarde. Elle est juste là et elle me regarde. Et moi, je reste là et puis je fais ça. Je sors de 2 heures de prière, s'il te plaît. Là, je suis rempli. J'enlève tranquillement mon casque, je pose. Et puis, je la regarde. Quand je la regarde, elle me regarde. On se regarde dans les yeux. Les gens sont sur le quai, tous paniqués. Ils se disent, mais oh, le gars là, on va le frapper, on va lui faire un truc bizarre. Je suis resté là, je l'ai regardé. Elle m'a regardé. Ça a duré peut-être 30 secondes. J'ai rien dit. Elle m'a regardé. Après, tout d'un coup, elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à courir. Je vous assure, je ne sais pas ce qu'elle a vu. Mais je sais juste que là, le Saint-Esprit a dû lui mettre une gifle. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette histoire. Elle a détalé, je t'assure. Il y en a un autre, toujours dans le métro. J'étais assis, moi j'ai plein d'histoires, hein. J'en ai plein dans mon sac. Toujours assis dans le métro est bondé, on est assis. Le monsieur il vient, il s'assoit, il avait de gros yeux. Et à chaque fois qu'il s'assied à côté de quelqu'un, la personne se levait, la personne partait. Et il vient, il s'assoit juste en face de moi. En face de moi, il me regarde. Et moi je regardais, j'avais ma musique. Et moi je l'ai regardé, puis j'ai fait, qu'est-ce que vous regardez monsieur? Et là, il fait, oh, rien du tout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, peu importe l'addiction, peu importe la difficulté par laquelle tu passes, peu importe la maladie, peu importe le niveau d'oppression, remets-t'en pleinement à Jésus-Christ. Amen. Et à sa grâce. Et croire que la justice de Christ sera largement suffisante pour que Dieu puisse t'approuver. Et l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est une œuvre qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est au travers, et exclusivement au travers de cette œuvre-là, qu'on a accès à ce que j'appelle depuis des mois les promesses. La Bible est remplie de promesses. La Bible nous parle tout le temps de promesses. Et ces promesses-là, elles sont accessibles, mais seulement en Jésus-Christ. Amen. Et quelle que soit la promesse, Jésus-Christ est suffisamment, a tout accompli à la croix pour que nous puissions avoir accès à ces promesses-là. Elles sont disponibles, tu as juste à les accepter. Si par exemple, toi, ton Goliath à toi, c'est la stérilité. Ça fait des années et des années et des années que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu t'en remets seulement à l'œuvre rédemptrice en Christ. Et tu dis, Seigneur, il y a une promesse dans ta parole qui s'appelle la fécondité. Ce n'est pas juste fécondité spirituelle ou fécondité en termes de créativité, c'est aussi fécondité physique. Donc, je l'accepte et je crois que tu vas me donner cet enfant au nom de Jésus-Christ. Je l'accepte. Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Parce qu'il y a des femmes, elles n'arrivent pas à avoir un enfant et puis la voilà, elles sont en train de prier. Pendant 2 heures, elles prient, donne-moi l'enfant. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu acceptes. Tu prends la parole de Dieu et tu dis, Seigneur, par la grâce de Dieu, tu dis dans ta parole, tu te mets avec ton mari, tu dis dans ta parole, par la grâce de Dieu, tu dis que lorsque deux personnes s'accordent sur la terre, Matthieu 18, verset 18, lorsque deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, tu le leur accordes. Donc nous te disons simplement, merci pour cet enfant. Et vous ne priez plus. Dieu a entendu. Le colis est en route. Donc la bonne nouvelle du royaume, c'est le message de la grâce. Et le message de la grâce est un message qui est très important. C'est le message que Paul a prêché. C'est le message que Paul a prêché. C'est le message que tous les apôtres ont prêché. Et ce message, vous reconnaissez le message de la grâce en ce que Jésus-Christ est toujours au centre. Si vous entendez un évangile prêché par un pasteur ou par qui que ce soit, et vous voyez que Jésus-Christ n'est pas au centre, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de beaux parleurs aujourd'hui. Paul les appelle les discoureurs. Les gens qui ont la rhétorique. Les gens qui t'endorment là, quand ils parlent, avec la chaussure pointue, le beau costume. Il est là, il brèche la parole, il crie le micro. Et tu te dis, Jésus est là-dedans. Jésus n'est pas dedans, mon ami. C'est de la poudre qui tombe aux yeux. Donc, la bonne nouvelle du royaume, le message de la grâce, est un message où Jésus-Christ est toujours glorifié au centre. Si Jésus-Christ n'est pas glorifié dans le message que tu entends, alors lève-toi et va-t'en. C'est extrêmement important. Et cette année 2015, ce n'est pas les performances que tu vas faire qui vont changer. C'est la grâce. C'est la grâce qui va faire la différence. Je vous assure, en 2015, là, décembre 2015, vous allez voir les témoignages. Ah. Et... Comme il fait. Que tout le monde fait. Voilà, prépare-toi, ça va décoller. Commence déjà à arriver et à imaginer des choses. Et la foi, et pose des actes. Tu vas voir seulement. Tu vas voir. On va finir. On va finir avec les 5 vertus. Les 5 vertus de la grâce. Qu'est-ce qu'une vertu? Peut-être que quelqu'un ici ne sait pas ce que c'est qu'une vertu. Une vertu, c'est simplement ce qu'on peut appeler un mérite. Ou encore une capacité ou une disposition particulière à faire du bien à quelqu'un. OK? Et quand on parle des vertus de la grâce, on parle de ses mérites. D'accord? On parle de ses accomplissements. On parle de ses accomplissements. 1 Pierre 2:9 nous dit, vous, c'est-à-dire toi et moi, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Dis avec moi, royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu sais, c'est quoi annoncer les vertus de Jésus? C'est-à-dire que ta vie témoigne, reflète son accomplissement, ce qu'il a fait. Et puis il dit bien, ces vertus, parce qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il y en a plusieurs. La première vertu que l'on peut citer concernant la grâce, et je l'ai un peu dit, c'est que la grâce surabondante est une personne. Dis avec moi, c'est une personne.
C'est une personne.
J'insiste sur ce point, je vais vous dire pourquoi. Jean chapitre 1 au verset 14, on nous donne une description de cette personne. Et cette personne, au verset 14, il dit, « Et la parole a été faite chair. » Ah, cette personne s'appelle la parole. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. Le don que Dieu a fait à l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Et ce monsieur, il est la personnification de la grâce. Le jour où tu comprends que la grâce est une personne, en la personne de Jésus-Christ, ta vie change. Ta manière de voir Dieu change. Ta manière de prier change. Ta manière de lui parler change. Ta manière même de le décrire dans tes prières change. Même quand tu lis la Bible, tu es tout le temps en train de chercher à quoi il ressemble, comment il est. Ta manière même de l'adorer change. C'est une personne, dis avec moi, c'est une personne. Tu cherches sans cesse à en savoir plus sur lui. La grâce est une personne. Le fait de voir la grâce comme une personne, Jésus. 1. Tu ne te sens plus seul. La solitude disparaît. Le remède à la solitude, c'est quoi? C'est que la personne ne se sent plus seule. Et quand tu dis à la personne, oh Dieu est avec toi, il te dit, oh Dieu, laisse-moi tranquille. Mais quand il arrive à voir dans son esprit que le Saint-Esprit, c'est une personne, il ne se sent plus seul. Moi, je vous assure, un jour, vous venez guetter chez moi quand je suis seul à la maison, vous allez me dire que je suis fou, parce que parfois, je parle seul. Mais en fait, je ne suis pas en train de parler seul, je suis en train de parler à Dieu. Et pas toujours, oh non, Dieu, Seigneur, tout ça. Non, parfois, je suis là. Parfois, je suis là en train de chercher, je vais chercher mes clés. Ah, punaise, les clés sont où? Ah, Seigneur, où est-ce que j'ai mis mes clés? Jésus, où est-ce que j'ai mis mes clés? Oh, Saint-Esprit, montre-moi où sont les clés. Oh, Seigneur, tu sais que j'en ai besoin des clés. Hein? Regardez, j'ai encore une histoire à vous raconter. Une fois, j'étais en train de chercher mes clés. Sérieux, vraiment sérieux. J'étais en train de chercher mes clés. Seigneur, je cherche mes clés. Je soulève les fauteuils. Et je commence à stresser. Et dès que j'ai dit, oh Saint-Esprit, où sont mes clés? Il me dit, mais elles sont dans tes mains, mon fils. Et en fait, j'étais là, les clés étaient dans nos mains. Mais je ne sais pas comment je t'assure. J'étais là, je dis, où? Mais je deviens fou, quoi. Je ne devenais pas fou. J'étais juste ailleurs. Ça veut dire tout ça, nous est arrivé d'en avoir des choses. Et j'ai juste une pensée, les clés sont dans tes mains. Et puis je rigole seul. Je fais, Dieu, tu es. Il dit, je ne suis pas grand. C'est toi qui as un problème, mon fils. Tu ne te sens plus seul. 2, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu te sens plus en sécurité. Tu n'es plus stressé. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Il est là. C'est une personne. Tu veux te marier, mais tu n'es plus stressé de ne pas être encore marié. Parce que tu sais que Christ est ton époux. Tu ne comptes plus les heures passées dans la prière, car tu sais que tu es avec quelqu'un. Tu l'honores plus facilement par ton comportement et ton attitude. Tu développes un amour inconditionnel pour sa personne. Tu es rempli d'assurance. Parce que quand tu sais qui est avec toi, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux que lorsque Moïse allait se tenir devant Pharaon, il ne regardait pas au Dieu visible, il regardait au Dieu invisible. C'est-à-dire quand Pharaon le menaçait, il disait, gars, tu sais pas, c'est... Non, gars. Vous connaissez l'histoire du serviteur d'Élisée avec l'armée de Syrie? Deuxième livre de Rois. Élisée dormait et ils furent environnés de l'armée de Syrie. Il y avait des chars partout et le prophète dormait. Et le serviteur se réveille, il regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il panique. Il dit, oh, on est venu nous tuer. Et il se tourne, il voit le prophète en train de dormir. Et il dit, oh Seigneur, nous sommes environnés. Et le prophète dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et là, il dit que Dieu ouvrit les yeux du serviteur et il vit autour des chars des myriades et des myriades d'anges. Qu'est-ce qu'il a fait après? Vous lisez ce que dit la Bible. Là, il dit que quand il vit les myriades d'anges, il se remit à dormir. Je vous assure, Dieu a le sens de l'humour. Hein. Il se mit à dormir, lui aussi. Parce qu'il avait vu que, mais en fait, on est en sécurité. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Tu as une meilleure estime de ta personne. Parce que tu sais que Dieu t'accorde beaucoup de valeur. Tu rentres plus facilement dans la révélation car il est la parole. Donc, tes yeux sont ouverts sur les secrets contenus dans la Bible à son sujet. Amen. Dis avec moi, la grâce est une personne. Deuxième vertu, c'est que la grâce surabondante est une faveur non méritée. Dis avec moi une faveur non méritée. C'est très important de comprendre ça. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter la grâce de Dieu. Rien. Si tu devais faire quelque chose, alors ce ne serait plus la grâce, mais la loi. Il n'y a rien que l'on a besoin de faire pour mériter la grâce de Dieu. On a juste à croire. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 10, « Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Avant, tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Jésus. Tu allais en boîte de nuit, tu couchais à gauche, à droite, tu mentais, tu étais insolent. Et puis un beau jour, tu entends l'évangile et tu viens à Christ. Et là, tu découvres que quand tu étais dehors là, tu n'avais pas cette faveur là sur ta vie. Et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as maintenant cette faveur sur toi. Tu dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette faveur là? Dieu dit, tu n'as rien fait. Je te l'ai juste donné. C'est tout. Donc quand tu te regardes dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a la faveur de Dieu sur lui. Dis avec moi la faveur de Dieu. Chaque matin, quand tu te regardes, vois quelqu'un qui a la faveur de Dieu sur lui. Ça veut dire que Dieu ne peut rien te refuser. Rien. S'il y a quelque chose que tu demandes à Dieu et il ne te l'a pas donné, c'est parce qu'il estime que tu n'as pas encore besoin de ça. Il faut peut-être que ta foi augmente plus ou bien, je ne sais pas. Mais rien. Qui? Moi, pendant que je suis en train de travailler sur mon canapé ou dans mon lit, ma fille vient, elle saute sur moi, elle me tord le cou, elle saute sur moi, elle se roule sur... Parce que c'est que ça là, c'est mon papa. Une fois, ma femme lui a fait, Kayla, arrête d'embêter papa, il doit travailler. Elle a fait, non, c'est mon papa. Elle répond ça à sa mère. Et puis ma femme fait, c'est mon mari aussi. Elle fait, c'est mon papa. Quand elle dit, c'est mon papa, là, elle dit ça avec plein d'assurance, hein, c'est mon papa. Je fais ce que je veux avec mon papa. Je rentre, je sors, malgré tous les avertissements que je donne, laisse-moi, gay. Obligé de la jeter chez la mamie. Donc, la faveur qui vient de la loi est une faveur méritée. Pourquoi? Parce que on fait des choses et en retour, on a quelque chose. Attention, la loi aussi bénit. Hein. La Bible dit que la loi est bonne. La loi est bonne. Les Juifs qui lisent leur Torah, là, c'est la loi. Hein. Les Juifs sont bénis aussi, non? Ils sont dans la loi. Mais il y a une faveur qui est au-dessus de cette faveur-là que eux, ils ont, qu'on appelle la grâce surabondante. Et cette faveur-là, Elle est non méritée. On n'a pas besoin de demander, de faire quoi que ce soit. Nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Amen. Donc, si Dieu devait se baser sur nos efforts et nos propres justices, il y a longtemps qu'il nous aurait rejetés. Mais il s'est basé non sur nous, mais sur son amour pour nous pardonner et déverser sa faveur sur nous. Regardez ce que David nous dit. C'est ce que David avait compris. David nous dit dans le psaume 25 au verset 11, « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, dis avec moi, à cause de ton nom, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Psaume 79 au verset 9, il dit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Dis avec moi « à cause de ton nom. » Psaume 109 au verset 21 « Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. » Dis avec moi « à cause de ton nom. » Car ta bonté est grande, délivre-moi, Seigneur. Quand tu es face à un problème, tu es face à une situation, dos au mur, quand tu pries là, dis Seigneur, à cause de ton nom. Parce que Dieu est celui qui est plus engagé que toi pour ta réussite. Je t'assure, je vais te dire pourquoi. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la loi de la marque. Dis avec moi la loi de la marque. Tu vas remarquer que, ça je vais en parler la semaine prochaine à Port-Gentil, quand on va faire le séminaire sur l'entrepreneuriat. La loi de la marque. C'est-à-dire, tu vois, ma femme là, elle a un iPad. L'iPad là. Il y a beaucoup de tablettes non, qui ressemblent à l'iPad. Hein? Mais le fait juste qu'il y ait derrière la tablette, la pomme, Apple, ça fait que la tablette là coûte 4 fois plus cher que les autres tablettes, juste à cause de la pomme. Mais si tu prends la tablette de Google, si tu prends la tablette de Sony, etc., c'est la même chose. Même depuis que je commence à découvrir Android, je me dis, mais c'est même mieux que Apple, Android. Tu vois que tu n'as pas remarqué que tous les iPhones qui sortent, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de... Mais ça coûte toujours plus cher. Mais quand tu prends les iPhones, quand tu prends le dernier iPhone 5, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste qu'ils ont, ils ont juste arrondi les bords, c'est tout. Mais le fait que derrière l'iPhone, là, il y a la pomme là, qu'on a mangée là. Eux aussi, avec ça, c'est quelle inspiration de pomme qu'on a mangée là, vraiment. Hein? La pomme qu'on a mangée là. Non, mais pourquoi d'abord Apple, c'est la pomme qu'on a mangée là. Ils vont penser aux fruits défendus, tout ça, là, que là, on est... Non, vraiment. Donc, c'est comme le genre, l'iPhone est défendu et puis tu ne peux pas t'en empêcher, quoi. C'est trop bon, d'accord? Donc, le fait qu'il y ait la pomme, là, derrière le iPad, là, ça change tout le prix, hein? Ça change tout le prix. Un jour, j'ai vu un film français, Les Trois Frères. Vous connaissez ce film? Et puis, il y a une scène dans le film où ils sont en train de regarder des tableaux de peinture. Et puis, on leur donne le prix des tableaux. Ça, c'est le tableau de Picasso. Combien? 1 million d'euros. 1 million d'euros! Mais il dit, mais c'est n'importe quoi ce tableau. Il n'y a rien, on ne comprend rien. Juste parce qu'il y a écrit Picasso dessus. Ça vaut 1 million d'euros. Donc, eux aussi se disent, bon, nous aussi, on va faire aussi nos tableaux aussi. Donc, il y a une scène où il prend un tableau tout blanc. Et puis le monsieur vient dire, monsieur, combien coûte votre tableau? Attendez. Il prend un stylo, il met un peu de peinture, il fait un petit point au milieu du tableau, tic! Et puis ça vaut 1 million d'euros. Il dit, mais il n'y a rien. Non, mais c'est juste parce que c'est moi qui l'ai fait comme ça. C'est parce que c'est moi qui l'ai mis. C'est pour ça que ça vaut 1 million d'euros. La marque. Dieu, le fait qu'il t'ait créé et que tu dis, je suis en Christ. Le mot Christ là, Christ. Quand tu dis, je suis en Christ, tu es en train d'engager la réputation de Dieu. Oh, c'est vrai? C'est pour ça qu'il y a des gens, ils énervent Dieu. Parce qu'ils disent qu'ils sont en Christ, mais quand on voit leur vie, on dit, ça, c'est pas des chrétiens, ça. C'est des païens. Dieu n'est pas honoré dans leur comportement. Donc, quand Dieu te voit, quand Dieu voit ta vie, le fait qu'il ait à poser son nom, sa marque sur toi, là, ça veut dire qu'il va s'assurer, il va tout faire pour que tu réussisses. Parce qu'il faut que tu sois un témoignage. Vous me suivez? Dieu veut que tu réussisses. Dis avec moi, Dieu veut que je réussisse. Quand une entreprise fait des voitures et que les voitures sont sur le marché et qu'on découvre que les freins de telle gamme de voitures ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce que la marque fait? On rappelle toutes les voitures. On ne rappelle pas la voiture dans laquelle on a trouvé le défaut. On rappelle toutes les voitures dans le monde entier. Parce que c'est la réputation de l'entreprise qui est en jeu là. Parce que s'il y a des morts, C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 21 que il vaut mieux une bonne réputation et être fidèle que d'avoir beaucoup d'argent et être méprisé des gens. La réputation, c'est important. Donc Dieu a une réputation, sa réputation en jeu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ se tient sur le bord de l'eau et puis il prêche l'évangile du royaume, tout ce qu'il dit, ça cogne les gens. Les gens disent, on n'a jamais entendu l'évangile comme ça. Et puis les gens disent, bon, ce que tu dis là, prouve-nous maintenant que c'est vrai. Quand Jésus-Christ dit à Pierre, éloigne-toi un peu plus loin et jette le filet. Si Pierre remonte le filet là et il n'y a pas de poisson, imagine un peu la scène, jette le filet, il jette, il remonte. Seigneur, il n'y a pas de poisson. Hein? Comment ça, il n'y a pas de poisson? Jette le filet. Qu'est-ce que tu es Jésus, toi? Dieu était obligé de l'exaucer. Dieu était obligé de l'exaucer. C'est pour ça qu'il y a des, moments où il faut mettre Dieu au défi. Le problème c'est, avec les chrétiens, c'est que vous n'avez pas suffisamment de foi. Il y a des situations où il faut mettre Dieu au défi. Quand tu prends, par exemple, de l'argent, et tu dis, Seigneur, je vais semer cet argent. Tu prends une bonne somme d'argent et tu dis, Dieu, cette année-là, il faut que cette porte s'ouvre. Je te mets au défi. Si tu es Dieu, si tu es Dieu, et je sais que tu es Dieu, je crois que par ta grâce, par cette offrande, tu vas le faire, Seigneur. Avant la fin de cette année, il faut que j'aie un témoignage. Et puis, tu mets. Et tu t'attends à ce que Dieu va faire. Je ne dis pas que Dieu va absolument le faire. Hein? Mais je dis une chose, c'est que si ta foi est suffisamment violente, Amen. Troisième vertu, on va aller vite parce qu'on a fini là. Troisième vertu, la grâce surabondante est la porte d'accès au royaume de Dieu et à toutes les promesses. Toutes les promesses du royaume sont contenues dans la personne de Jésus-Christ. Et personne ne peut entrer en possession des promesses divines dans le royaume sans passer par la porte d'entrée du royaume, Christ. Qui est avec moi, Christ? Lorsque tu parles avec un païen, avec un non-croyant, et que vous êtes en train de parler de Dieu, vous parlez du ciel, sois tranquille, avec beaucoup de sérénité et d'assurance, tu lui dis, mon ami, tu sais, pour aller au ciel, là, il faut donner ta vie à Jésus. C'est la vie. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu veux vivre heureux sur la terre, avoir les promesses que Dieu a promises pour toi et être dans l'éternité quand tu vas mourir, faut donner ta vie à Jésus. La semaine dernière, j'ai pris le taxi avec ma femme. On était dans le taxi. Et puis, je commence à parler au chauffeur. Monsieur, vous avez déjà entendu parler de Jésus?
Ouais.
En toute simplicité, je dis, jeune homme, il faut donner ta vie à Jésus. Hein? Il fait, oui, j'y arrive. Je lui fais, non, ce n'est pas une question que tu y arrives. C'est extrêmement important. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus et que tu meurs demain, tu vas aller en enfer. J'ai senti un coup de frein sur la voiture. Après, il a continué. Il faut savoir dire ça aux gens. Si tu vois que les gens ne sont pas disposés à entendre, tu avances, tu fais ton chemin. Jésus-Christ est la porte. Dis avec moi, Jésus-Christ est la porte. Jean 10 au verset 7 dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et tous ceux qui viennent aussi après moi et qui disent que c'est eux la porte, ce sont des voleurs et des brigands. Oh, pasteur, tu es en train de dire que tous ceux qui sont venus après là, ce sont des voleurs et des brigands. Même lui. Oh, pardon. Il n'y a pas les histoires. Voilà. Personne d'autre n'est la porte si ce n'est Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il n'y a pas d'autre pâturage avec Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. Et quelles que soient les promesses, elles sont accessibles. Quelles sont ces promesses? J'en cite quelques-unes. Santé divine, prospérité, guérison, paix, joie, victoire, exploit dans les affaires, sagesse, fécondité, richesse, paix, bonheur, tout, sérénité, tranquillité. Tout se trouve en Christ. Quatrième vertu, La grâce surabondante n'annule pas la loi, elle l'accomplit. Amen. La loi dont on a parlé depuis n'est pas annulée. Elle est accomplie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Je suis en train de dire que quand tu prends ta Bible, tout l'Ancien Testament là, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament là, tout est résumé en Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus lire l'Ancien Testament. Tu dois toujours lire l'Ancien Testament, d'accord? Pour te rappeler ses lois, pour te rappeler ses commandements et les mettre en pratique. Mais tu dois ne plus marcher par la vue, mais marcher par la foi. En croyant que, en marchant avec Jésus-Christ, tous les commandements qui sont écrits dans l'Ancien Testament, ils sont accomplis en la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Matthieu 5, verset 17 dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » La loi de Moïse, les lois divines, elles sont toutes accomplies en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, verset 20 dit, « Avec les Juifs, j'étais comme Juif. » C'est très important ce verset. « Afin de gagner les Juifs. » Amen. « Afin de gagner les Juifs. » Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Christ est la loi. Quand on dit la loi du royaume, la justice du royaume, elle s'appelle Christ. Amen. Christ, c'est qui? Christ, Jésus, fait partie du corps de Christ. Jésus, homme, il est la tête du corps. Christ, c'est pas juste Jésus. Christ, c'est nous tous. Quand tu dis « je suis en Christ », ça veut dire que le corps de Christ, c'est nous tous. Là, je rentre dans quelque chose de pas évident. Chacun d'entre nous, on est Christ. Chacun d'entre nous, on fait partie du corps de Christ. Si tu touches mon doigt, ça s'appelle Luc. Le pied là-bas, c'est Luc. Ma poitrine ici, c'est Luc. Ma tête, c'est Luc. D'accord? Tout ça, c'est mon corps. Il y a des membres de mon corps que tu vois, d'autres membres que tu ne vois pas, qui sont à l'intérieur et qui font vivre tout le corps. Et chacun d'entre nous, nous sommes Christ. Nous faisons tous partie du corps, nous sommes tous un membre du corps de Christ. Et quand Paul dit, la loi, c'est Christ. La loi dans le royaume. Il est en train de dire que la loi, c'est qui? La loi, c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire? La loi, c'est nous. C'est pour cela que le premier Christ, Adam, dans le jardin d'Éden, la création lui obéissait. Pourquoi? Parce qu'il était Christ. Mais il n'était pas le vrai Christ. C'était une version d'essai. Mais le vrai Christ, le second Adam, est venu. Et quand il est venu, il est mort. Et quand il est ressuscité, Éphésiens 2 dit qu'il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir ensemble avec lui à la droite de Dieu. Donc aujourd'hui, ta condition, c'est que tu es sur la terre, mais ta position, elle est en Christ. Donc quand Paul dit la loi de Christ, la loi du royaume, il est en train de parler de toi. C'est-à-dire que toi, quand tu te tiens là, c'est là où Josué a la révélation pendant la bataille. Et quand Josué a la révélation pendant la bataille, il dit, « Oh, ça c'est quelle révélation que tu me donnes là ? Soleil, arrête-toi tout de suite sur Gabaon. » Et le soleil s'arrête. Dieu nous montre des passages parfois. Arrête et puis dit, « Ah Dieu, ça c'est trop fort. » Comment le gars dit au soleil de s'arrêter, le soleil s'est arrêté. Une fois, je me suis caché, ma femme était en train de s'habiller dans la chambre, et puis je suis venu, la pluie m'énervait parce qu'il pleuvait trop pendant un certain temps. Je suis allé derrière la lampe, j'ai fait, « Pluie, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Tu t'arrêtes !» Ça continue, arrête-toi. Et puis quand je fais « Arrête !» ça se monte encore, « Arrête !» Non, bon, ok, je laisse tomber. Ok. Amen. La loi de Christ. Dis avec moi, je suis la loi en Christ. Christ est la loi. Dis, je fais partie du corps de Christ. Amen. Et enfin, dernière vertu, on finit avec ça. La grâce surabondante te donne la victoire sur le péché. La loi trouve sa puissance dans le péché. C'est parce qu'il y a la loi que l'on est conscient qu'il y a un péché. Mais plus on s'appuie sur la loi, et plus on sera esclave du péché. Pour vaincre le péché dans notre vie, il ne faut pas regarder à nous-mêmes, mais à Jésus-Christ, je l'ai dit. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Satan, qui n'a qu'un seul objectif, c'est de te faire croire que tu peux te faire justice par toi-même pour mieux te maintenir sous la loi et mieux te dominer. Le problème maintenant que Satan a, c'est quand tu commences à arriver à la connaissance et à comprendre que tu n'es plus sous la loi, mais tu es maintenant sous la grâce. Malheureusement, on voit encore beaucoup de chrétiens qui ne voient pas Jésus-Christ comme une personne et qui continuent à poser des actions en pensant qu'ils seront justifiés en faisant ça. Et ils vivent dans le péché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ces personnes-là, c'est seulement quand elles vont avoir la révélation de la grâce en la personne de Jésus-Christ qu'elles vont être délivrées. Amen. Donc, sans s'en rendre compte, elles se mettent sous le joug de la loi. Et Satan, c'est ça son but, par son mensonge, par l'intimidation, par la culpabilité, c'est de faire croire aux gens qu'ils ne sont pas capables. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est pas que tu n'es pas capable, c'est que tu n'as même pas à être capable. Seul Christ est capable. Amen. Donc, c'est justement quand tu te bases sur tes propres efforts que la loi te révèle davantage ta faiblesse et ta défaite dans le péché. Et tu ne peux pas vaincre le péché. Seul Jésus-Christ a vaincu le péché. Et tu n'as aucune force devant le péché. Pourquoi? Parce que seul Jésus te donne la force de vaincre le péché. Amen. Romains 5, 20 dit... Romains 5 dit... 5, verset 20 dit... Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, la grâce règne sur le péché par la puissance de la justice accomplie en Jésus-Christ. Comment règne la grâce dans notre vie? Par la puissance de l'œuvre de Christ. Amen. Comment vaincre le péché dans ma vie? Comment vaincre l'addiction? Comment vaincre la pornographie? Comment vaincre la masturbation? Comment vaincre la convoitise? Comment vaincre ces choses-là qui me maintiennent dans une condition de vie déplorable? Amen. Comment? Comment je fais? Est-ce que j'ai assez de temps? On y va ou on reste? On y va. On continue. 1. Il faut prendre la décision de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Romains 6, 4 nous dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Le succès, dis avec moi le succès. Dans la vie, le succès dans la vie commence d'abord par une décision. Il y a un engagement qu'on prend. Si tu veux vaincre, prends la décision de vaincre. Si tu veux aller de l'avant en 2015, prends la décision d'aller de l'avant. Tu ne peux pas changer ce que tu tolères dans la vie. Tu ne peux pas changer ce que tu acceptes. Il y a des situations aujourd'hui par lesquelles tu passes, c'est parce que tu les acceptes. C'est le jour où tu vas dire « Stop !» C'est fini, ça suffit maintenant. C'est là que les choses vont changer. Et ça, Dieu ne peut pas le faire à ta place. Amen. Donc, tant que tu ne prends pas l'engagement de ne plus permettre au péché de régner dans ta vie et de faire de toi son esclave, tu resteras esclave. Amen. 2. Comment vaincre? Il faut accepter de mourir à soi-même et dans sa chair et se voir comme définitivement mort au péché. Dis-moi, mort au péché. définitivement mort. Romains 6 au verset 5 nous dit, très important comme verset, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus-Christ, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Dites-moi,
celui qui est mort
est libre du péché. Pourquoi il y a certains péchés que tu n'arrives pas à vaincre? C'est parce que tu n'arrives pas à te voir mort devant ce péché-là. Il faut te voir mort. Et quand tu es mort à quelque chose, ça ne t'attire plus. Parce que tu as pris la décision de mourir à ça. Trois, il y en a cinq. Trois, il faut te voir comme mort devant non seulement le péché, mais aussi la tentation. Romains 6, au verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu te regardes dans la glace et tu dis, je suis mort au péché. Je suis mort à la convoitise. Je suis mort à ces choses-là. Voilà, pasteur, il y a une jeune fille qui était venue nous voir, je ne sais plus il y a combien de temps, et qui m'avait dit, oui, pasteur, je suis homosexuel. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je lui ai dit, seul Jésus-Christ peut te sortir de là. Accepte que Jésus-Christ a fait de toi son enfant et non pas un homosexuel. Comment je fais pour résister à ça et pour ne plus me retrouver dans des situations déplorables? Mets ta vie entre les mains de Jésus-Christ et fais-lui totalement confiance. Mets ta foi. Il n'y a pas de remède A plus B ou que je vais commencer à te dire, etc., etc. Non. Mets ta foi en Jésus-Christ. Et quand la tentation se présentera, quand la tentation de retourner là-dedans se présentera, tu dis, stop, non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je refuse cela. Parce que Jésus-Christ me donne la force de résister. Et tu vas voir que face à la tentation, tu ne sais pas comment, tu vas juste avoir suffisamment de courage et de force pour dire non. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ça a l'air simple comme ça, mais je vous assure, c'est ça qu'il faut. 4. N'obéis pas. Dis-moi, n'obéis pas. N'obéis pas aux convoitises du péché. Romains 6, au verset 12, dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. » Tout le temps, quelqu'un dit « Lui, n'obéis pas. » Ne pas obéir veut simplement dire « Ne pas obéir. » Quelle que soit la proposition, la tentation, tu dois désobéir et ne pas céder. Pourquoi? Eh bien, si Dieu te dit que tu peux désobéir, c'est que tu peux désobéir et que tu n'es pas soumis à ça. Tu peux désobéir. Donc, pasteur, tu es en train de dire que chaque fois que je tombe dans le truc là, ça veut dire que c'est moi qui obéis, qui me laisse. Oui. Oui. Romains 6 au verset 14 nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes, quoi? Non sous la loi, mais sous la grâce. Si tu n'es plus sous la loi, pourquoi tu obéis encore au péché? Pourquoi tu ne résistes pas? Pourquoi tu tombes dans les mêmes convoitises et les mêmes tentations alors que tu as la grâce de Dieu maintenant sur ta vie? Verset parole vivant dit, car votre maître n'est plus le péché, il ne conserve aucun droit, dis-moi aucun droit, sur vous. Et ne pourra pas par conséquent ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. C'est le signe qui est marqué sur ton front, grâce divine. Donc quand le péché vient se présenter à toi, refuse. Refuse. Je veux te dire que le péché n'a qu'un seul but, c'est te détruire. Te détruire. Tu es là, tu négocies. On ne négocie pas avec le péché. Le péché n'a qu'un seul objectif, te détruire. Tu penses que quand, imagine, tu penses que quand Jésus voyait Judas en face de lui, il mangeait sur la même table. Tu penses que Jésus le regardait comment? Jésus était là, il le regardait, mais il savait que le gars veut me détruire. Ça, c'est ce qu'on appelle un ennemi. pas un adversaire. L'adversaire, c'est celui qui est sur le ring avec toi, tu le vois et puis il veut te frapper. L'ennemi, c'est celui qui est par derrière et puis il te sourit par devant. Vous connaissez ça, non? Peut-être au boulot, à l'entreprise, il vient, il te dit bonjour tous les matins, mais tu sais que lui, derrière, il te critique mal. Ça, c'est un ennemi. Et quelle que soit la tentation, la convoitise ou le désir instinctif que tu ressens d'aller vers quelqu'un d'autre, même si ce désir est homosexuel ou quoi que ce soit, n'écoute pas ton penchant naturel. Ne l'écoute pas. Parce que son seul objectif, c'est de te détruire. Amen. Donc, tu ne dois plus marcher avec ton instinct. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils marchent avec la chair. Ils marchent avec l'instinct. Mais nous ne marchons pas par l'instinct, nous marchons par l'esprit. Et quand le péché ou la tentation vient se présenter devant toi, tu sais que le seul objectif derrière, c'est te détruire. Donc, parfois, même quand tu parles avec certaines personnes, elles aiment négocier, elles aiment parler. Tu dis, mais c'est pour te détruire. Et parce que je t'aime, je te dis, laisse. N'attends pas de ne plus avoir de dents pour te rendre compte qu'il fallait laisser. Parce qu'une dent casse, une, deux, trois. Au bout d'un moment, tu vas dire, il n'y a plus de dents. Paul nous dit, Galates 5, verset 18, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'est écrit en blanc. Galates 5, verset 18 dit, mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, dis avec moi votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facilement reconnaissable. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite, et moi ensuite. Ensuite, c'est l'adoration de faux dieux, les superstitions. Oh, ne laisse pas la chaussure retourner là, il faut la retourner, c'est pas bon. Les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discords, les querelles, les jalousies. Ah, tout là, laisse-moi tranquille. Tout ça là. Tout ça, c'est pas bon. Les querelles, les jalousies, le mauvais caractère. C'est un jour, on va faire tout un séminaire dessus. Les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes. C'est quoi les rixes? Les bagarres. Toi qui aimes trop les bagarres là. Les rivalités inspirées par les ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, toi qui aimes trop manger, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis vous répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part dans l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Je vous invite tous à prendre ce texte-là et à aller relire ça ensemble à la maison. Et tout point dans lequel vous allez vous identifier, vous corrigez. Amen. Et enfin, quand la tentation vient, ne réfléchis pas. Tu ne négocies pas, tu fuis. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la débauche. Dis avec moi, fuis.
Fuis.
Fais bouger le plafond.
Fuis.
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 La gomme vient te voir. Elle commence à te faire des avances, fuis. Le gars vient te voir, il commence à te faire des avances, fuis. Si tu restes là, il va te bouffer. Pas besoin de réfléchir, particulièrement quand il s'agit du péché sexuel. Parce que là, Paul parle du péché sexuel. Quand il s'agit du sexe, on ne négocie pas. Parce que le sexe, ça détruit. Tu peux construire une vie pendant 20 ans, 30 ans, rien qu'à cause d'une affaire de 5 minutes, bousiller toute ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on ne blague pas avec le sexe. Et ça, on va y revenir. Mais quand il s'agit de la grâce que tu as sur ta vie, pour ne pas perdre cette faveur-là, fais gaffe et fuis. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, j'ai été un peu plus long que d'habitude. Et bon, je pense que c'est le Seigneur qui a conduit cela comme ça. Amen. On va incliner la tête, on va prier. Tout ce que nous avons dit, ce sont des choses qui sont très importantes. Ce sont des choses hyper importantes. Il y a des situations, tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Il y a des addictions, des dépendances, des convoitises, des choses qui te minent et tu ne sais pas comment tu dois faire pour sortir de là. Remets-t'en seulement à la grâce en Jésus-Christ. La grâce est capable de tout. La grâce est capable de relever celui qui est à terre. La grâce, quelle que soit la dépendance, elle est capable de t'en sortir. Les vertus de la grâce, il y en a encore plein d'autres. Déjà comprendre que c'est une personne et que quand tu es à terre, cette personne-là te tend la main. Tu as juste à saisir sa main et dire: Seigneur, je te suis aujourd'hui, je suis avec toi. C'est une faveur non méritée. Tu n'as rien mérité, mais Dieu t'a quand même fait grâce. Tu n'as rien demandé, Dieu t'a quand même fait grâce. Et aujourd'hui, au son de ma voix, si tu as déjà entendu l'appel de Jésus-Christ plusieurs fois dans ta vie, mais tu n'y as toujours pas répondu, aujourd'hui, réponds. Réponds à cet appel. Réponds à cet appel. C'est la plus belle décision que tu prendrais de toute ta vie. Parce qu'il y a une faveur qu'on appelle la grâce surabondante qui est sur le point de se déverser sur ta vie. Je ne te parle pas des choses que tu as pu faire dans le passé ou que tu fais aujourd'hui. Je te parle d'une distinction particulière dans le royaume de Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec ta vie. Dieu va faire des choses extraordinaires. Et c'est même toi qui diras: mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Si je savais que c'était cela la vérité, je l'aurais accepté tout de suite. Une faveur non méritée. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Ce n'est pas parce que tu viendras à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas lire la Bible 3 heures par jour. Ce n'est pas à cause de ça. Non. Cette faveur, Dieu la dépose sur ta vie simplement parce qu'il t'aime. Simplement parce qu'il t'aime. Simplement parce qu'il t'aime.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as pris ma honte sur toi et par amour, tu m'as sans lavé par ton eau de vie, et maintenant je prie ton pardon et ta paix.
Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et pour ta parole. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, je t'invite à faire ce pas de foi et à te lever là où tu es. Simplement à te lever. Si dans ton cœur, tu ressens ce désir de donner ta vie à Jésus-Christ, parce que tu sais que c'est la bonne décision à prendre, alors lève-toi. Ne te demande pas comment Dieu va faire. Crois juste qu'il le fera. Si tu t'étais perdu en cours de route et que tu t'es toujours demandé comment faire pour revenir sur le droit chemin, alors lève-toi. Lève-toi. Et crois juste que Dieu va le faire. Crois juste. Parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies, même pour ta propre vie. Et Dieu, je t'assure, il le fera. Il le fera. Crois juste. Crois juste. Crois juste. Ne te demande pas comment. Ne te demande pas pourquoi.
Dis-toi juste que Dieu t'aime, que Dieu t'aime. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Et je te rends grâce, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de cette personne, Seigneur, qui s'est levée. Je te demande, Père, de lui accorder, Seigneur, ta grâce. De lui accorder la révélation de Christ. Je voudrais que tous ensemble, on fasse cette prière avec cette personne qui va faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, voici devant
moi. Je te demande pardon.
Je te demande pardon.
De m'être écarté. De ton chemin. Merci parce que tu es mon berger. Et tu es celui qui me ramène sur la voie droite. Merci parce que aujourd'hui, j'ai la vie en Jésus-Christ. Je suis ton fils et je te donne ma vie. Tiens-moi par la main et conduis-moi. Je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Glorifie ton nom. Glorifie Jésus-Christ dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.